Alors, on est rendu dans le. On va récapituler ça. Vous le connaissez déjà le cycle, les étapes du cycle. Hein? C'est toujours comme ça. Ben, pas toujours comme ça, mais souvent comme ça. C'est le cycle où les enfants d'Israël abandonnent l'Éternel, ils vont adorer les idoles. Et là, Dieu va réagir par rapport à leur action. Il va leur envoyer un ennemi pour les opprimer. Et après l'arrivée de l'ennemi, bon, ils vont se rendre compte que ben, c'est un jugement. Ils vont crier à l'Éternel. Et dans leur détresse, l'Éternel va leur envoyer, va leur susciter un juge pour les libérer. Et puis, pour une période, ils vont connaître la paix. Puis, étant en paix, bon, ils recommencent. Ils recommencent dans les idoles. Ça, c'est le cycle qu'on a vu à date. Mais, c'est pas toujours ça, je pense. C'est pas toujours ça. La majorité des cas, oui, mais non. C'est pas la norme tout le temps. Alors, on a vu tous ces juges-là déjà là. Hein? On a déjà vu Othniel, Éhud, on avait tout cela, c'est déjà vu. Gédéon, on a passé beaucoup de temps dans Gédéon. Et on a vu aussi trois rapidement là. On a vu ça assez rapidement. Pas beaucoup de détails sur ces deux-là. Jephté, on est passé beaucoup de temps sur Jephté. Beaucoup, beaucoup de temps sur Jephté, c'est bon, c'est très bon ça. Mais à la fin, on a passé, il a sauté vite, vite là-dessus, sur ces trois-là. On n'en parle pas beaucoup, le texte biblique ne parle pas beaucoup de ceux-là. On les a vus la semaine passée, dans le chapitre 12. Maintenant, on est rendu dans le chapitre 13, et jusqu'au chapitre 16, nous allons passer du temps dans Samson. Samson, ok? Voilà, c'est bon comme ça. Dans le chapitre 12, on avait vu avec notre frère Agaï la semaine passée qu'il y avait un conflit, le conflit entre les gens de Galaad et les Éphraïm, les Éphraïmites. Et ces personnes-là, vous savez que, semble-t-il, les Éphraïmites, ils ont ce côté-là de chercher du trouble. On l'avait déjà vu dans le chapitre 8, je pense plutôt. Puis là, on les a revus. Et dans le chapitre 12, ils vont essayer de ce conflit-là est dû en particulier, en fait, principalement par l'orgueil, n'est-ce pas? C'est l'orgueil des Éphraïm, des gens d'Éphraïm, et qui voulaient participer à la guerre, disons, pour tirer une gloire personnelle. Une gloire personnelle, c'est ce qu'on avait vu. On a vu que les hommes de la tribu d'Éphraïm ont reproché Jephté de ne l'avoir pas appelé pour participer au combat contre les Ammonites. Mais c'est pas vrai. Jephté répond, mais non, j'ai fait appel à vous, mais vous n'êtes pas venu à mon secours, là. Et les Gadites, ils sont entrés, le conflit s'est dégénéré, vous vous rappelez, bon, il faut passer à travers le Jourdain, mais il y a le gué, ça veut dire c'est là que les gens peuvent passer tranquillement, qui est moins profond, pour traverser le Jourdain. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est une stratégie, ben, ils ont bloqué ça. Hein? Ils ont bloqué ça pour empêcher que les gens d'Éphraïm puissent traverser et s'enfuir. Hein? Mais pour faire. Ils ont utilisé un mot de passe phonétique, vous vous rappelez? Un mot de passe phonétique. Shibboleth. Puis malheureusement, les gens d'Éphraïm ne pouvaient pas prononcer comme il faut. Et c'est là qu'ils ont pu les découvrir. Et dans ce conflit-là, il s'est terminé par une tuerie de 42 000 hommes d'Éphraïm sont morts dans cet affrontement-là. Et puis le chapitre termine avec la mort de Jephthé et puis sa succession, les trois rois, les trois juges qu'on avait vus vite, vite. Le texte ne parle pas beaucoup de ces trois-là, mais il est à noter qu'ils étaient juges aussi en Israël. Maintenant, c'est le nouveau chapitre, c'est Juges chapitre 13. Nous allons lire le texte. Une longue introduction, un peu inhabituelle. En fait, on a eu des longues introductions aussi pour un juge, mais quand même, c'est pas sa naissance. Jusqu'à date, on n'a pas vu ça. C'est une première dans cette étude. Dieu sait pourquoi qu'il l'a fait. Mais une petite question là, on va le poser tantôt. On a vu l'annonce de la naissance dans le jusqu'au verset 7. On a vu Manoah, le père, qui demande à avoir l'ange pour mieux comprendre comment faire pour l'enfant. L'ange revient et les parents réalisent qu'ils ont vu un messager de Dieu et l'enfant est né, l'enfant grandit. Tout ça, c'est un sommaire du chapitre 13 qu'on vient de lire là. Maintenant, dans le verset 1. Qu'est-ce qu'on peut remarquer en comparaison avec l'introduction de la majorité des autres anges? Il y a une petite nuance, il y a quelque chose vous avez vu tantôt là, les étapes du cycle. Il y a quelque chose d'après. Si on regarde le verset 1, il y a quelque chose qui manque. Qu'est-ce que vous remarquez là? Vous remarquez? Le peuple qui?
Ne crie pas pour sa délivrance.
Pour sa délivrance. Dans le verset 1, il n'est pas mentionné. On voit que les enfants d'Israël, normalement, ils font ce qu'ils font là, hein? Ils font ce qui est dépeu à l'Éternel. Mais normalement, dans les cycles qu'on a vus, ben, le jugement est là, mais ils vont crier à l'Éternel.
Mais là, étant donné qu'il n'est pas encore né, donc, à ce moment-là, si le peuple d'Israël crie à l'Éternel, puis que le juge n'est pas encore né, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps avant que le juge puisse être en fonction.
OK.
Bon. Fait que,
alors, d'après toi, c'est peut-être à cause de ça qu'il n'est pas mentionné dans l'introduction?
C'est probablement ça, que ce n'est pas encore le temps de Dieu, le temps qu'il faut. Ils ne sont pas encore. Ben, c'est marqué quand même qu'ils sont les mains des Philistins, ça fait plus 40 ans. Ça fait quand même 40 ans. Mais peut-être que ce n'est pas arrivé au point où ils se tournent puis crient à Dieu, comme on dit, là. Puis la différence que je vois aussi, c'est que dans les autres juges, Dieu intervient alors qu'ils sont prêts à servir. Puis là, il leur donne la mission. Tandis que là, on part du tout début. Il est déjà consacré à l'Éternel dans le sein de sa mère, en partant. Fait que ce n'est pas une surprise. Comment on dit, c'est quelque chose qui va se faire petit à petit.
OK. OK. À partir de ton intervention, je pense qu'il y a ce que j'ai observé, peut-être ne tient pas debout à 100% parce que, à cause de ce que tu dis, si tu permets, je vais juste passer à travers ce que j'ai observé. Moi, on va le partager tout simplement. On pourra en discuter tout simplement. Okay? All right? D'autres interventions à part Pierre?
Bon, bien que ce n'est pas écrit, que le peuple ne le criait pas, ce n'est pas écrit. Mais le peuple, je pense qu'ils étaient dans la désobéissance, mais Dieu, dans son plan de révéler, il prévoit déjà un juge pour délivrer Israël, parce que c'est écrit dans 1 et 7. Donc Dieu prévoit déjà. Alors c'est la visitation de cet ange de l'Éternel à la femme de Manoah et de Manoah. Donc, ce n'est pas que le peuple ne criait pas, ou bien le peuple. Bon, je crois que le peuple, à ce moment-là, peut-être désobéissait à l'Éternel, mais Dieu avait déjà un plan. Il préparait déjà pour la venue du Messie.
D'accord.
Donc, c'est quelque chose qui a été dit dans le livre de Genèse. Donc, Dieu avait déjà son plan
Oui,
de salut pour l'humanité.
oui,
Donc, c'est comme ça qu'il avait déjà un plan pour délivrer son peuple d'Israël.
Oui. Mais ma question, c'est dans le contexte de comparaison avec ce qui a été déjà, ce qu'on a vu déjà dans le cadre, comme tu as dit tantôt, là, et le juge est déjà prêt. C'est déjà prêt, Dieu va susciter ce juge qui est déjà prêt pour entrer en mission. Dans ce cas-ci, c'est différent. En tout cas, je vais passer à certaines remarques, on va juste les regarder ensemble. Mon observation, ma remarque, c'est comme si le jugement de Dieu ne semble pas produire un effet. Vous pouvez être d'accord ou pas, là. C'est comme tu dis, hein, c'est le peuple, Dieu, il est là, livré. Dans le verset premier, il dit livré entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Et comme on dit qu'ils n'ont pas crié à l'Éternel, c'est comme si le jugement que Dieu est en train d'exercer ne les touche pas, parce qu'ils n'ont pas besoin de crier à l'Éternel, ils sont insensibles à ça.
C'est comme si sont confortables envers cette situation, ils acceptent que l'autorité, ça ce soit les Philistins qui avaient l'autorité sur eux. Parce qu'ils n'ont pas l'air d'être opprimés d'une façon...
Comme les Ammonites. Comme les Ammonites dans le passé. Dans le passé, parce qu'ils se sont attaqués. Oui, oui.
On prend le contrôle de la place. Soyez en paix, puis écoutez-nous.
Oui. En tout cas, comme je dis là, c'est mon observation à moi, vous êtes d'accord ou pas, mais je peux susciter la discussion là, parce que le texte ne le dit pas. Le texte ne le dit pas. Okay? Le peuple semble avoir aussi crié à l'Éternel, elle ne semble pas avoir crié à l'Éternel, donc peut-être pas de repentance. Peut-être pas de repentance. Et comme je dis, je reviens pour dire que Dieu a inspiré ce texte-là. Il a une raison pourquoi il ne l'a pas dit. Là. Okay. Ouais, c'est bon. Les Philistins semblent vivre une cohabitation paisible, comme tu dis là, avec
Ils
n'ont pas, pas été trop méchants avec nous comme les autres. Okay. La paix, peut-être pour Israël, est préférable à la guerre. Notre petit coin, là, on veut pas de troubles. On veut pas de troubles, ne nous dérange pas. Et l'humiliation, comme tu l'as dit, de l'ami est peut-être acceptée. Ils sont bien avec eux, ben, ok. Et tout ça, c'est parce que on voit pas le cri vers l'Éternel. C'est pour ça qu'on parle comme ça, là. On voit pas le cri.
C'est en passant à Jean-Baptiste. Mm-hmm. Parce que le peuple était sous domination romaine. Mm-hmm. Ça veut dire très bien accepté. D'ailleurs, les chefs acceptaient ça facilement. Mais c'est ça. Jean-Baptiste, au contraire, a crié contre le peuple, contre les chefs. Puis, en tout cas, ça me fait un peu penser à ça, le fait que ce peuple-là accepte leur situation dominée.
Oui, comme on dit, on l'ajoute, mais le texte ne le dit pas. On essaie de comprendre là. On essaie de comprendre la situation. Comment est-ce qu'un peuple pourrait réagir qui est dominé et alors que Dieu dit lui-même qu'il est libre. C'est un jugement. Okay? Et notre frère Pierre en a parlé un petit peu. Selon ce récit, ce qu'on vient de lire là, c'est un peu difficile d'établir le moment précis de la visite de l'ange qui va annoncer la naissance avec le lien du ministère de Samson, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va commencer. Là. On n'est pas sûr. Mais juste pour le fun, j'ai regardé quelques hypothèses qui ont été avancées par rapport à cela, ok, à ce lien-là. Est-ce que l'annonce de la naissance a eu lieu à la fin des 40 ans, au milieu des 40 ans, ou bien juste au début des 40 ans? C'est trois hypothèses qui pourraient être plausibles à la lumière du texte. Mais le texte dit pendant 40 ans. OK? Ça, c'est le texte dit que la domination a duré 40 ans. Dans l'hypothèse où la nouvelle naissance a eu lieu à la fin, OK? La domination durerait 80 ans minimum, aux environs de 80 ans. Pourquoi 80 ans? Parce qu'on aurait 40 ans avant la naissance, parce qu'on dit c'est à la fin, 40 ans avant la naissance. On va ajouter un plus ou moins 20 ans de croissance pour la croissance, la naissance, la croissance du juge, voyez. En plus, il faut ajouter un 20 ans de ministère, parce que dans d'autres textes, dans chapitre 15 et verset 20, et chapitre 16, verset 31, il est clairement indiqué que Samson a été juge pendant 20 ans. Okay? Ça, c'est une hypothèse qui a été avancée. Deuxième hypothèse, que l'annonce a été faite au milieu de cette domination de 40 ans, là, totale de 40 ans. Alors, la domination durerait 60 ans et plus. Dans ce cas-ci, parce que 20 ans de domination déjà, parce qu'il déjà a lieu la domination, boum, l'enfant est né, on lui donne 20 ans à peu près pour croître et prêt, et son ministère dure 20 ans. Et tout ça, c'est un exercice qu'on fait, mais je pense que quand on regarde les 3 mois, je pense que le texte semble appuyer le début. C'est ce que je crois, parce que la domination dure 40 ans, c'est ce que le texte dit. Okay? La naissance et la croissance on observe la naissance et la croissance, ok? 20 ans de ministère, et encore 20 ans, parce que Samson n'a pas le délivré complètement.
Il y a un gros paquet à qui est mort, en tout cas.
Il en a fait partiellement la délivrance. Il a commencé la délivrance, mais il n'a pas fini. Il n'a pas fini. La fin va avoir lieu avec David et Samuel. C'est ce que je sais dire dans ce texte-là. Parce que Samson va avoir un ministère pendant 20 ans. Il va être juge pendant 20 ans. Ça, c'est clair dans le texte. Le texte le dit. Et la domination, c'est 40 ans. Et c'est lui le juge. Et le texte, dans le chapitre 7, verset 5, nous dit, l'ange dit, il va commencer. C'est lui qui va commencer à délivrer Israël. Alors, je pense que c'était au début, comme peut-être tu l'as dit tantôt, là, au début de, tout au début de la domination. L'enfant n'était pas né. Maintenant, Dieu suscite un juge qui va naître, qui va exercer un ministère pendant 20 ans, mais qui n'aura pas complété, qui ne pourra pas éliminer complètement les Philistins. On l'a vu, Samson commence la libération dans Juges chapitre 5. On n'a pas sorti de là, c'est clair. Mais aussi, quelqu'un peut lire 1 Samuel 7:13 et quelqu'un d'autre, 2 Samuel 8:1.
Samuel 7:13, ainsi les Philistins furent humiliés et ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main d'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel.
Fait que la période des juges est terminée. On est maintenant dans 1 Samuel, avec Samuel, bien entendu. Mais le texte nous dit que sur Samuel, les Philistins ont été humiliés. OK? Et dans le cas de David, dans 2 Samuel, chapitre 8, verset 1er.
Je lis. Après cela, David battit les Philistins, il les humilia, et enleva de la main des Philistins les rênes de leur capitale.
Okay. On se souvient tous de cette grosse bataille de David et Goliath, hein, n'est-ce pas? Ça fait que ce que l'on comprend, c'est que David va terminer la bataille, et Samuel va quand même avoir une victoire, mais pas la victoire finale, mais c'est David qui va avoir la victoire finale pour se débarrasser d'Israël de cet ennemi là qui s'appelle les Philistins. D'accord? D'accord. Okay. Contemporain, quand tu dis, parce que 20 ans, il y a une différence. La même époque, est-ce que il y a quand même quelques...
Non,
quelques...
Les juges, c'est
différent. OK.
Mais chacun
différent.
OK. C'est la façon que je le vois. Parce que ça, c'est 40 ans, puis on voit la délivrance dans Samuel. Avec Samuel. Là, il y a un roi.
Mais est-ce que tu veux dire, il y a une le chevauchement entre juge et Samuel, c'est ça? Parce que Samuel était juge?
Oui.
Okay. Tu prends chronologiquement?
Oui, chronologiquement, je pense.
OK.
Les deux, à la fin, c'est comme un peu ensemble.
Je n'ai pas fait cette recherche-là, mais c'est peut-être vrai.
OK.
Right. Alors, comme on l'avait dit, aucune repentance ne semble être mentionnée pendant 40 ans. Le peuple n'a pas crié. C'est notre interprétation de ce qui est écrit dans le chapitre 1er, verset 1er. Dieu intervient miraculeusement pour commencer la libération de son peuple. Commencer la libération de son peuple. Et on dit vraiment miraculeusement, dans ce cas-ci, un ange de l'Éternel apparaît à une femme qui est stérile et lui annonce que tu vas avoir un enfant. Ça nous rappelle pas mal d'autres exemples dans la Bible des femmes qui sont stériles, annexées entre parenthèses, et puis on connaît d'autres personnes, et qu'elle sera mère d'un enfant, et cet enfant sera un libérateur. Ou même penser à Jésus-Christ. Hein, dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste, quelqu'un en a parlé aussi. Il ne sera pas un libérateur, mais un précurseur, avec une mission prédéfinie. Oui. C'était un espoir pour la famille, qui peut-être souffrait déjà de cette domination, et aussi pour Israël. La maman apprend qu'elle aura un fils et qu'elle devra s'abstenir de certaines nourritures. Est-ce qu'on a un exemple, d'autres exemples comme ça dans la Bible? Je ne m'en souviens pas. Où la maman devrait s'abstenir là, de les femmes qui ont été auxquelles on a promis, on a annoncé la naissance. Si on pense à Élisabeth, est-ce qu'elle a dû? Non, je ne pense pas qu'Élisabeth a dû. Marie non plus. Marie non plus. Sarah non plus. Fait que c'est un petit peu spécial dans le cas de Samson. Le cas de Samson, c'est que sa maman doit s'abstenir de certaines nourritures, entre autres du vin et de la liqueur forte. C'est quoi la différence? C'est peut-être l'alcool, le taux d'alcool qui est peut-être.
Je sais qu'aujourd'hui, la liqueur forte, c'est différent du vin. Parce que un whisky, c'est différent du vin.
Oui.
Mais dans ce temps-là, je sais pas.
Est-ce que c'est la traduction qui fait ça? Je ne sais pas quel terme qui a été utilisé, je n'ai pas été tombé. En tout cas, le texte dit ben, il faut s'abstenir des fruits de la vigne, de l'hélicat. C'est ça, c'est le vin, les fruits de la vigne. Tu voulais dire quelque chose?
Le vin était beaucoup moins fort dans ce temps-là.
OK. OK.
Donc, c'était comme un
remplacement. OK.
Mais c'est
long. Qu'il faut consommer avec mesure. Qu'il fallait consommer avec mesure.
Peut-être un genre de. Pourquoi qu'il parle aussi de. Mangerait pas le produit de la vigne. Donc, c'est pas juste le côté alcool, mais c'est sûr que tu avais une partie qui était comme moins forte.
OK. OK. Pourquoi vous pensez ça? Je n'ai pas d'idée là, mais je vous lance à l'affaire comme ça. On ne sait pas. OK, Dieu a décidé comme ça, mais peut-être par la suite.
La vigne naissance est un homme fort. C'est pas la même chose. Une femme qui pourrait dire ah, ben, je veux donner naissance à un homme fort, je ne mangerai pas ci, je ne boirai pas ça.
Mais ça lui a été ordonné là. Ça lui a été ordonné. L'ange dit tu ne fais pas ça, tu ne manges pas ça. OK? Dieu a décidé c'est comme ça. Mais peut-être par la suite, on peut regarder, peut-être. On peut essayer de comprendre pourquoi. Pas de vin, pas de liqueur forte et rien de impur. Okay? C'est ce qui a été demandé de la part de la maman le temps qu'elle est enceinte. Son fils, par exemple, lui sera consacré toute sa vie à l'Éternel. Qu'est-ce que ça inclut? Qu'est-ce que ça demande de la part de ce fils-là? Vraiment, le rasoir ne sera pas le rasoir sur la tête, ne sera pas cheveux, pas de cheveux. Rasé, ne sera pas rasé. La question, on a lu le texte, les abstentions de nourriture, c'était pour la maman, pas pour l'enfant. Est-ce que l'enfant devrait aussi s'abstenir de ça? Le texte ne le dit pas. Ok, là, si on commence, si on attaque ce plan-là, on va voir quelque chose. On va voir une petite réponse. On parle nazirien. On va aller. Okay. Pour moi, d'après ce que j'ai compris, même si ça n'a pas été répété mot par mot dans le texte, ok? Le terme consacré, nous renvoie à cette règle, à ces règles-là du Nazaréa. OK? Nazaréa. Alors, qu'est-ce que cela sous-entend pour Samson? D'être consacré à l'Éternel toute sa vie selon l'Ancien Testament dans Nombre 6, 1 à 8. Ça veut dire que faire enlever les erreurs, c'est ça? Consacré à l'Éternel, c'est ça sous-entend, il est consacré à l'Éternel. Et on s'attend de lui qu'il fasse ce vœu-là. Okay? Et qu'est-ce que ça veut dire? Lisons Nombre, chapitre 6, verset les règles qui entourent, moi je pose la question, quelles sont les règles qui entourent ce vœu-là? Ben, c'est dans Nombre 6. Quelqu'un peut lire Nombre 6? Non, 1 à 8.
1 à 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux Israélites et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant un vœu de Naziréat pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de liqueur forte. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une liqueur forte. Il ne boira d'aucun breuvage tiré des raisins. Il ne mangera ni raisins frais, ni raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins de raisin. Pendant tout le temps de son vœu de naziréat, le rasoir ne passera pas sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint. Il laissera pousser librement les cheveux de sa tête. Pendant tout le temps qu'il a consacré à l'Éternel, il ne s'approchera pas d'une personne morte. Il ne se rendra pas impur pour son père, pour sa mère, son frère, sa sœur, à leur mort, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son naziréat, il sera saint pour l'éternité.
OK. Donc, la question, on a la réponse à la question. Est-ce que l'enfant devrait s'abstenir aussi, même si ce n'est pas dit textuellement, mais le fait qu'il sera consacré à l'Éternel, mais on comprend qu'il va faire ce vœu-là de naziréat. Okay. Mais regardez ce qui est demandé de maman pendant le temps de la gestation, disons, là, pendant les 9 mois. Right? C'est sa responsabilité de ne pas faire ça. Mais je pense qu'il y a une autre demande de la part des parents une fois que l'enfant aura été né, n'est-ce pas? Parce que l'enfant, automatiquement, il ne sait pas ce que ça veut dire d'être... Il ne sait pas. Je ne sais pas. Fait qu'il y a cette éducation-là. Ouais. Cette éducation-là, dans, selon la loi juive, selon ce que l'Éternel, les ordonnances de l'Éternel, que l'enfant doit devoir apprendre, entre autres, ne pas se raser les cheveux. Maman ne le fera pas, mais toi non plus, tu ne le feras pas. Et puis, mais on a vu que dans la vie de Samson, il n'a pas tout respecté. Entre autres, les morts, s'approcher de personnes mortes, là. Dans les versets, dans les chapitres à venir, on va, je pense qu'il s'est approché du corps mort, etc. Mais la question, ce n'est pas ça, c'est juste que pour son naziréat, il devrait s'abstenir des boissons fortes aussi, comme sa mère l'a fait pendant la période qu'elle était enceinte. Et lui, à son tour, il devrait se plier à ces lois-là. Alors, l'ange est arrivé et parle à Madame Noah. Elle lui annonce cette nouvelle-là. Elle lui dit, lui donne des ordonnances. Tu feras pas ça, tu feras pas ça. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est allée voir son mari pour lui en parler, n'est-ce pas? Et puis, il expose à son mari tout ce que l'ange de l'Éternel lui a prescrit. Et quelle est la réaction de Manoah? Parlons-en de ça. Il voulait connaître l'individu, comme tout homme. C'est qui ce qui t'a mangé pour la nouvelle, ça? Oui, c'est ça. Alors, il pose la question, mais il a des doutes.
Ouais.
Malgré la réponse de madame, il a des doutes. Et je pense qu'il réagit bien par rapport au doute. Je pense qu'il réagit bien par rapport au doute. Il s'en va voir consulter le Seigneur. On voit que c'est quand même un homme de Dieu, n'est-ce pas? Un homme de Dieu qui va quand même, avec toutes ses faiblesses, c'est sûr, comme nous autres. Mais on voit que sa réaction première, c'est vraiment de consulter l'Éternel, de prier, et de même demander un signe, de demander que le Seigneur, hey, fait qu'il revienne, fait que l'homme l'homme de Dieu revienne, et qu'il nous dit comment, on va dire, éduquer. En parenthèse, c'est pas le terme qui est... utilisé dans le texte, mais il dit comment faire avec l'enfant. C'est ça, comment faire avec l'enfant qui va naître. c'est une bonne réaction. Puis je me demande, est-ce que c'était ça ma réaction quand ma femme est devenue enceinte de nos 14? Seigneur, peux-tu nous dire qu'est-ce que tu attends de nous? Qu'est-ce qu'on commence? Qu'on va enseigner ces enfants? En tout cas, c'est la réaction de Manoah.
Oui, c'est ça. Puis, quand Marie a été enceinte, Joseph voulait divorcer. Il a fallu que Dieu lui-même s'adresse à lui. Mm-hmm. Parce qu'il ne croyait pas, probablement pas, ce que Marie lui disait. Fait que c'est ça. L'homme a besoin d'être rassuré directement.
Oui, oui. Mais dans la chaussure de n'importe quelle, dans une situation comme ça, là, on aurait peut-être réagi de la même façon. C'est qui cet homme-là, quelle autorité qu'il a pour te dire que tu vas devenir enceinte, là? Quoi tu veux dire? Et puis, il y a tout d'indemne des instructions. Ne mange pas ça, ne mange pas ça, là. Ça, tu viens attaquer l'intimité même du couple, là.
Ouais. Il y avait le problème. Donc, il savait ce que la loi disait. Parce qu'une femme qui a peut-être été enceinté par quelqu'un d'autre, mm-hmm. je ne peux pas le poser comme l'exemple de Joseph.
Oui, oui, oui.
Donc, c'était dans leur droit que cette femme-là soit la
plus belle. Oui,
oui. C'est à peu près ça, moi, j'ai assis sur leur loi. Parce que c'était des gens qui étaient assis sur leur
loi. Les lois, oui, 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 ils connaissent la loi. Ils connaissent la loi, ils connaissent la loi. Puis, je pense que la meilleure façon de faire, c'est de relire le verset 18 à 14 pour voir la réaction. Manoah fit cette prière à l'Éternel. « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Dieu exauça la prière de Manoah et l'ange vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ. Oui, mais cette fois-ci, ce n'est pas le serpent. Et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, « Voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoah se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?» Il répondit, « C'est moi. » Manoah dit, « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qui aura-t-il à faire ?» L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne et ne boira ni vin ni liqueur forte. Elle ne mangera ni rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Voilà. C'est clair comme réponse. Et l'ange se répète. Il n'y a rien à ajouter. Il se répète. Par rapport aux cheveux, il dit rien, mais il dit elle fera tout ce que je lui ai prescrit. Et qu'on comprend que dans cette prescription-là, il comprend ce que je lui ai demandé. Et que Manoah est peut-être convaincu maintenant que c'est la même version. Ils ont tous de la même version que l'ange voulait que sa femme s'abstienne de certaines nourritures et qu'elle sera vraiment, qu'elle va donner naissance à un enfant. Un signe de reconnaissance. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut apprêter un chevreau, hein, un chevreau pour remercier le messager. Et je comprends, c'est dans la bonne façon d'agir quand on reçoit un étranger, et surtout dans ce temps-là, encore peut-être aujourd'hui pour certaines cultures. Et il voulait lui offrir à manger. Vous vous rappelez, c'est Gédéon, je pense, dans quel Gédéon il y avait aussi, qui voulait faire la même chose avec l'ange de l'Éternel qui lui apparaît. Mais dans ce cas-ci, parce que Gédéon voulait avoir des preuves, vous vous rappelez, les tisons, les toisons, c'est ça? Les toisons, etc. C'est l'ange qui va lui dire quoi faire. Mais dans ce cas-ci, l'ange va aussi lui dire, mais ta nourriture là, j'en veux pas. Je ne veux pas de façon très très sage là, mais il dit, mais offrez-le à l'Éternel. Hein? Il dit, mais Manoah ne réalise pas que l'homme qui était devant lui était un ange de l'Éternel. Pour lui, jusqu'à date, là, c'était quelqu'un, un homme de Dieu. Peut-être qu'ils sont habitués à ces prophètes-là, hein? C'est un homme de Dieu qui vient lui parler. Je trouvais ça spécial pour que l'ange de l'Éternel. Et putain, on va voir, on croit comprendre que c'est l'Éternel lui-même là, qui parle pour la sélection, le choix de cet homme-là. C'est des questions qu'on se pose quand on lit les histoires à travers le juge là. Pourquoi c'est si différent d'un juge à l'autre? Comment le choix de Dieu? Mais il est souverain. Il est souverain. Oui, c'est souverain. Mais Noah ne réalise pas, mais il veut offrir quelque chose de manger aux visiteurs. Et maintenant, je lui dis, ben, il ne veut pas la nourriture que tu veux me préparer, tu vas l'offrir en holocauste à l'Éternel. Oups. Malgré cela, Manoah ne semble pas comprendre. Et il demande à l'ange de l'Éternel de lui dire son nom. Je ne sais pas, c'est peut-être ma compréhension là. Mais quand je lis ça, c'est comme si, pour moi, quand l'ange lui dit offre d'offrir cet holocauste à l'Éternel, c'est comme, c'est déjà lui l'Éternel. C'est ça, c'est comme si. J'ai tendance à comprendre ça, parce que c'est lui qui vient, tu veux m'offrir un cadeau, mais je dois l'offrir à l'Éternel. C'est sûr qu'il ne peut pas comprendre, là. Il ne peut pas comprendre. Mais là, il va aller plus loin, il va dire, quel est ton nom? Qu'est-ce qu'il répond, lui?
Dans mon texte, il m'a dit, c'est une surprise. C'est un mystère.
Ben, un mystère, c'est merveilleux. Dans certains, tout dépend de la traduction, là, OK? Pourquoi tu veux savoir? Attends, ça me fait penser à son nom est merveilleux, le chant qu'on chante tout. Son nom est merveilleux. Et c'est vraiment le Seigneur est merveilleux. Et... Vas-y.
Il comprend pas qu'il ne faut pas nommer quelqu'un au même niveau que Dieu.
Il ne réalise pas que l'ange est là. Il ne réalise pas. C'est un homme pour lui.
Il a dit un homme
de Dieu.
Il dit c'est un homme de Dieu. C'est sûr qu'il sait.
C'est
parce
qu'il est en train de le mettre au même niveau. Okay. En ce moment, il est au même niveau. Au même niveau que Dieu,
sauf
si c'est Dieu.
Ben, il lui offre à manger. Ça veut pas dire qu'il met au même niveau que Dieu.
Abraham l'a fait, n'est-ce pas? Il a offert la nourriture à l'ange.
C'est la façon qu'il fait pour... Tu vois qu'il recherche, j'aimerais ça te donner. J'aimerais ça t'élever. Toi, c'est quoi ton nom? L'ange de le faire dévier de son désir pour l'amener à
la. Mais c'est pas mauvais. Quand on regarde au niveau humain, là, ta femme est stérile. Hein? Ça, c'est une super bonne nouvelle. La réaction est humaine et correcte.
Hein? C'est juste de lui faire amener à avoir une meilleure vue de ce qui est en train de se passer. Parce que des fois, on reste trop...
Mais naturellement, on reste là. Mais on va voir que Dieu va aller d'un cran, va pousser le miracle d'un autre cran pour qu'il se puisse comprendre.
Non.
Oui, Dieu l'amène tranquillement à cette découverte-là qu'il avait besoin de... Wow. Non, c'est ça, c'est pas négatif. C'est pas négatif. On voit que c'est une découverte tranquille. À son niveau... Il fait ce qu'il peut, il essaie de comprendre, mais Dieu va lui montrer, ben non, il va, miraculeuse, un autre miracle qu'il va faire là. Il a déjà eu un miracle, c'est sur sa femme qui va enfanter, mais là c'est un autre miracle pour comprendre que c'est vraiment, tu es en présence de Dieu là. C'est Dieu qui s'est déplacé, et puis est-ce qu'un homme peut saisir ça, que Dieu se déplace pour venir m'annoncer? N'oublie pas ce gars-là, il y a un concept de Dieu quand même là. C'est son Dieu, le Dieu d'Israël, c'est le peuple. C'est son peuple. Puis là, il s'est déplacé pour venir dans ma humble demeure pour m'annoncer que ma femme stérile va avoir un enfant. On ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas saisir ça. D'un goût comme ça. Bon, moi, je trouve que c'est parce que c'est comme le salut, tout ça comme le salut. Peux-tu comprendre que un homme qui est mort sur la croix peut me donner le salut? naturellement, tu ne peux pas comprendre ça. Et l'accepter? Non.
C'est l'œuvre de Dieu.
C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Dans tout, dans tout, dans tout. C'est lui qui va faire tomber nos écailles pour qu'on puisse comprendre.
Comme quand il parle du sang, c'est le sang de Jésus qui nous purifie.
Oui.
C'est la folie pour...
Oui, c'est la folie. C'est de la folie. Oui. Oui, c'est le fils du charpentier.
Ça n'a pas de sens.
C'est la grâce, là. C'est la grâce. C'est ça. Oui. Oui. Et pour regarder comme ça, c'est la grâce qui nous protège. C'est la seule grâce. C'est la seule façon pour regarder dans ce sens-là. C'est merveilleux. On l'a vu là, il est merveilleux. Et mystérieux, et c'est vraiment dans notre version, ben, je ne sais pas qu'est-ce que ça traduit, mais c'est pas le nom de Dieu, mais c'est un nom merveilleux, c'est un merveilleux mystérieux, et c'est vrai. Et je crois que c'est dans Colossiens où Paul parle aux Colossiens, il dit que en Christ, toutes les merveilles de la science, on fait comme ça, les mystères de la science, en Colossiens 1 ou 3, là, dans ce coin-là. Et c'est vraiment mystérieux. Et puis nous aussi, les chrétiens, quand on regarde toute l'histoire de Dieu, là, c'est rien que du merveille. Mais Dieu va faire une coche plus loin, il va aller une coche plus loin. Il va produire un prodige, va se produire. Qu'est-ce qui va arriver? Dans la flamme du sacrifice, là, l'homme va prendre... Il va disparaître là-dedans. Imaginez, un homme qui vit ça. Mais le texte nous dit que c'est ce qui va arriver. Ils vont tomber à feu sur la face. Ils vont tomber à terre. Ils vont tomber à terre. En lisant ça, tu vois pas, je vois une couche de grâce que Dieu leur permet d'avoir une conversation avec lui, en fait, l'ange de l'Éternel. Mais maintenant qu'il est monté sur la flamme, il est parti. C'est comme là. Mais là, ils n'ont pas le choix. C'est comme, ils ont vu Dieu.
Mais dans les Hébreux, je reviens à ça. Dans les Hébreux, ça pourrait aussi vouloir dire incompréhensible.
En parlant de nom de... Le nom merveilleux. Mais c'est des synonymes, là. C'est toutes des synonymes. Un mystère, on ne comprend pas un mystère. On ne comprend pas un mystère. C'est une merveille aussi. Ça nous dépasse, merveille. Oui. All right. Alors, le produit s'est produit et lors du sacrifice à l'Éternel. Il a consenti d'offrir ce sacrifice-là à l'Éternel. Hein? Et puis, pendant qu'il regardait, monsieur et madame regardaient le sacrifice et puis, pouf! L'homme de Dieu a disparu, c'est ce qu'il dit? L'ange, maintenant. Maintenant, c'est l'ange. L'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. C'est possible, ça? Comment quelqu'un va monter? Mystère. Son nom est mystère. Son nom est merveilleux. Son nom nous dépasse. Et c'est un miracle. C'est ce miracle-là qui va faire tomber cette écaille-là. Qui ne pouvait pas comprendre Manoah. Et à cette vue, qu'est-ce qui est arrivé? Vers le verset 20, à cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. Ça, c'est une réaction de l'homme face à Dieu. Quand tu vois Dieu, tu n'as pas le choix. En fait, tu as une grâce, tu n'es pas mort. Et c'est sa conclusion, là, parce que Manoah connaît les Écritures. Donc, on voit qu'il connaît les Écritures. Et c'est ça qui va, c'est sa prochaine réaction, là. C'est ce qu'il va dire. Verset 20 à 23, nous l'avons vu. L'ange de l'Éternel, dans le verset 21, l'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Alors, Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Là, il a vraiment compris que, oups, c'est quelqu'un de plus supérieur que nous qui nous a visités. Ouais.
Je me suis toujours demandé d'où ça vient, ça, la conviction pour le peuple d'Israël que quand il voit Dieu, il meurt. C'est-tu marqué une place?
C'est écrit. L'homme ne peut pas voir Dieu et mourir et vivre.
Okay.
Et vivre.
C'est
la parole.
C'est
écrit. Mais il y a un texte. Le texte biblique nous dit car l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Okay. C'est ce que le texte. Je ne me rappelle pas de la référence, mais on peut trouver la référence. Mais le texte, l'ensemble, c'est Moïse. Oui. Okay. Mmh. Puis Moïse, quand il est devenu, là, il est tout. Oui, il n'a pas vu. Il n'a même 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 pas vu. Oui, oui. Voilà. C'est clair que l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même, je crois. Je ne sais pas si vous partagez sa réaction, nous confirme ça. Oui. Alors, qu'est-ce que ça nous révèle de ces deux personnes-là, de Manoma et de sa femme? Il craignait Dieu, il connaissait les Écritures, je pense. Mais par rapport à leur attitude, qu'est-ce qu'on peut découvrir?
Le sauveur une certaine humilité.
Ok. De la part des deux. Parce que.
Il était prêt à l'écouter.
Ok. Oui, c'est ça, c'est sûr. Ils sont prêts à obéir ce que l'ange leur a annoncé, à obéir, oui, c'est ça, oui.
Souligner en s'abaissant à la terre,
c'est bon, oui.
Oui, moi je crois que la femme avait vraiment la foi et croyait à ce que l'homme de Dieu a dit et tout ce qui s'est passé. Vraiment, la femme a considéré que c'est quelque chose qui venait de Dieu. Parce que la femme ne croyait pas la mort comme son mari l'a déclaré. Donc je vois que c'est ça. C'est le mari qui était un peu peut-être avec peur ou bien douteux. Mais la femme, non.
Ouais.
Parce qu'il a dit à maman que si. Il voulait que nous
mourions
et qu'il n'allait pas.
Nous laisser voir ça, tout ça, ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, on voit l'humanité de chacun d'eux. Okay? Ben, on connaît l'homme, on connaît la femme, etc. Mais dans cet exemple-là, on voit que c'est la femme a compris tout de suite. Elle a eu ce discernement. Le discernement. Elle a eu ce discernement-là pour dire. Ah, lui, il panique. Hey, qu'est-ce qui va arriver? On va mourir, là. Parce que l'Écriture dit, on ne peut pas voir Dieu. Il est convaincu d'avoir vu Dieu. Et puis l'Écriture dit, si, on voit Dieu. Mais, je ne sais pas pourquoi, à quel point vous avez vu comment elle a saisi les grâces de Dieu. Ça, elle le connaît aussi, c'est sûr. Qu'elle connaît l'Écriture qui dit, mais si tu vois Dieu, tu peux pas. Le mari l'a répété en plus, là, mais il dit, oui. Mais il dit, non. Si Dieu, qu'est-ce qu'il dit dans le verset 23? La femme lui répondit, si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Et il nous aurait pas fait voir tout cela. Il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. Comment tu là? Hey, il nous a annoncé quand je vais devenir maman d'un libérateur d'Israël. C'est pas rendu là, on n'est pas rendu là encore là. C'est à venir cela. Puis il nous fera mourir. C'était mental là-bas. Waouh, quel discernement. Je pense que ça devrait nous encourager dans de certains moments de nos vies, qu'on a des questionnements. On a des questionnements et puis Oui, Seigneur, oui. Non, non, ça ne peut pas parce que, ben, voilà, tu as fait ça, 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 je ne sais pas là. Vous avez sûrement des exemples dans votre vie. Et Manoah a été exhorté et sûrement réconforté par sa femme. Qui a... Non, chérie, non, 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 c'est pas qu'on ne faut pas le voir comme ça. Manoah a finalement compris, là, que c'était, il était en présence de l'ange de l'Éternel. Mais malheureusement, il en tire la mauvaise conclusion. Il comprend qu'on est en présence de Dieu. Ben, mauvaise conclusion. Ben, pas la bonne conclusion. Mais il devrait, par rapport à son vécu, les promesses de l'Éternel, comprendre, peut-être que ce n'était pas. En tout cas, la grâce que Dieu peut lui faire, là, si Dieu lui fait déjà de venir vers lui. Mais c'est Dieu qui va nous ouvrir les yeux pour comprendre toutes ces choses-là. Alors, toute la gloire doit lui revenir, le Seigneur. Merci Seigneur pour ton plan d'amour et pour ta grâce. Combien de fois on devrait mourir? Par contre, sa femme prend, comprend, explique la grâce divine à son mari. Dieu, non, Dieu ne fera pas mourir. Et je pense que notre frère, il avait besoin d'entendre ça. Dans cet état de panique. Et dans les versets qui suivent, dans les derniers versets, on voit la naissance. Dieu l'a promis. On ne sait pas combien de temps c'est passé, minimum 9 mois. Et l'enfant est né. Et c'est maman qui donne le nom, les parents qui donnent le nom. Pas dans d'autres exemples qu'on avait vus. L'ange arrive et il donne le nom. Il dit ce qui va arriver. Il dit le nom grand Jean-Baptiste dans la case de Jésus. Mais non, mais dans ce cas-ci, les parents ont l'honneur de donner. Comme dans le cas de Jean-Baptiste et de Jésus, un ange, Gabriel, qui s'est nourri. Dans le Nouveau Testament, c'est le ange, c'est Gabriel qui est apparu à Marie et qui est apparu aussi à Élisabeth. Il annonce la naissance et donne les noms. Pour Samson, l'ange éternel est venu annoncer la naissance, mais il ne donne pas le nom. Et c'est les parents qui s'en occupent. L'ange porte un nom merveilleux. Samson grandit et l'Éternel le bénit. Ça, c'est le début de l'histoire. Ça, c'est le début de l'histoire. Dieu a commencé à agir, on dit le texte déjà là. Dans le verset 25, et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Comment est-ce que vous comprenez ce texte-là? Commença à l'agiter. C'est ça. Moi, on peut donner des interprétations, moi.
Savez-vous ce que ça veut dire le mot Samson? J'ai regardé. Le prénom Samson est d'origine hébraïque. Il dérivait de
la lumière,
signifiant soleil. Soleil. Petit soleil ou enfant du soleil. C'est ce que le mot Samson veut dire.
Ouais. Merci. Ah, peut-être qu'il y a à profit ses capacités aussi, déjà. Oui, mais peut-être ses capacités, déjà, on voit peut-être un gars fort, peut-être un petit gars fort qui s'exerce avec les... Je sais pas, là. Et, il est en développement. On tous, on connaît un petit garçon, et puis déjà, tu dis, oh, ce petit gars-là, non? Mais tout ça, c'est géré par l'esprit. On peut comprendre, c'est peut-être c'est pas un petit gars de la rue et puis qui fait des conneries, là, mais c'est juste... Il est dompté par voir l'Esprit de Dieu qui est sur lui. Et il est encore en développement, c'est un jeune. Et je crois peut-être, probablement, ils ont un ministère local qui n'est peut-être pas encore national. Mm-hmm. Ils se promènent entre ces deux régions-là. Et puis, ben, Dieu peut l'utiliser, quoi que jeune, localement, la famille, je ne sais pas, mais son ministère national n'est pas encore, il n'est pas encore rendu à son ministère de juge d'Israël. Mais il grandit, l'apprentissage se fait. Dieu travaille, Dieu le forme pour la mission qu'il a pour lui. En conclusion, certains hommes ont été consacrés dès le ventre de leur mère dans la Bible. J'ai sauté dans la Bible. Vous en connaissez quelques-uns?
Jean-Baptiste.
D'autres?
Jérémie.
D'autres?
Samuel peut-être?
Moïse.
Samuel peut-être pas dans le sein de la mère, mais je pense que maman a offert une fois qu'il a fait la promesse qu'il donnerait. En tout cas, peu importe, c'est ça. On voit que ces personnes-là, si on prend ces trois-là, ben, le texte biblique nous dit qu'ils étaient consacrés. Pardon?
Dans
le ventre de la mère, oui. Mais il y a un autre là, peut-être qui nous passe, qui a plutôt découvert lui-même. Paul, il le dit dans Acte 1.15. Galates 1.15. Paul, n'importe quoi.
En réalité, c'est chacun de nous.
Voilà, et c'est ma question. Est-ce que c'est consacré? Élu, c'est consacré?
C'est pas vraiment consacré. Mais consacré, c'est pour.
Une fois élu, je pense que tu peux être consacré. Oui, c'est ça. C'est ça.
Mis à part. Okay. Ouais. En fait, c'est mis à part. Donc, être un saint, on est mis à part pour tout. Donc, chacun.
Ouais. Okay. Faut le voir comme ça aussi.
Et je te...
Oui. Je termine avec cette question-là qui est personnelle. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ont ou qui a découvert une mission spéciale que Dieu avait pour lui après sa conversion? C'est vous qui pouvez, c'est vous celle qui pouvez le réaliser, le dire. Et des fois c'est évident pour nous, des fois c'est évident pour nous que Dieu m'a choisi, m'a donné cette capacité-là pour lui. Ouais.
Une chose est certaine, il a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions.
D'avance. Ok. Si oui. Est-ce que tu as répondu à cet appel-là? Est-ce que tu travailles pour accomplir cette mission-là? Sois obéissant.
C'est pas du tout. Si tu sais, bon, on ne sait pas trop qu'on peut attendre, mais on finit grâce à Dieu à trouver
oui.
Dans quoi
oui.
Dieu
veut nous utiliser.
Mais toujours en obéissance, c'est vrai.
Obéissance.